Je lance la bête. Parlez fort.
Nous allons donc parler très fort. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu tout le monde. Donc, Virginie Barzakov qui est là-bas, qui est donc professeure de lettres et rédactrice, auteure du guide des faits, Regard sur la femme, et qui a en préparation un autre guide sur la thème des faits et de l'érotisme. Mélanie Fadi, qu'on ne devrait même plus présenter, qui est auteure et traductrice, et son dernier roman, enfin pardon, recueil, Serpentine, vient de sortir en poche. Jean-Michel Calvez, donc auteur de SF fantastique et polar, qui compte à peu près 9 romans, un recueil d'une bonne cinquantaine de nouvelles, et donc Manière Noire, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, dont tu vas nous faire une petite lecture. Et Patricia Pontéron, qui est professeure d'anglais à l'Université de Paris 12, qui travaille sur la fiction populaire victorienne, qui est membre du cercle d'études sur les littératures de l'imaginaire, CERLI, qui a fait une thèse sur les mondes perdus, en particulier sur
Bradley Haggett.
Merci. Voilà, et donc qui s'intéresse beaucoup à la fin du 19e et du 20e siècle dans la littérature populaire et d'aventure. C'est ça?
Oui.
Ok. Donc, on va commencer par une petite lecture, Mélanie.
Oui, c'est bon.
Oui, je t'en prie.
Vous nous avez demandé de choisir des extraits qui étaient en rapport avec les figures féminines. Et c'est un extrait d'une nouvelle qui s'appelle Le train de nuit, qui est dans ce recueil, en fait, Notre-Dame aux écailles. Et je spoil un peu parce que c'est la fin de la nouvelle, mais bon. Elle m'attend au bout du parcours, dans un dernier wagon entièrement vide, tapissé d'un nid de toiles épaisses. Ici, la lumière est gris-bleu, toujours aussi blême, et l'araignée trône au cœur de l'espace. Ses bras reposent mollement sur deux de ses longues pattes soyeuses. Paumes tournées vers le ciel, doigts repliés, comme les miens sous leur gang de toile. Des fils s'en échappent par poignées. Chacun relié à une couchette là-bas. Sauf le mien pour l'instant. Et celui d'Alison, dont l'extrémité brisée doit reposer à terre. Elle me regarde calmement, sans bouger, plantée sur ses pattes si fines et solides à la fois, qui luisent doucement au clair de lune. Et comme vissé dessus, un torse nu où l'humain le dispute à l'animal. C'est au-dessus du cou qu'elle devient pleinement femme. Sous les longs cheveux noirs, son visage est très pâle, affadi par cette lumière, percé de deux yeux ronds et d'une bouche stylisée, un masque de fantôme asiatique. Mais il se précise un peu à mesure que j'approche. Les traits durcissent, se remodèlent, la structure osseuse glisse doucement sous la surface, jusqu'au grain de la peau qui semble s'altérer. Comme si ce visage lisse, l'instant d'avant, n'était qu'une toile vierge sur laquelle plaquer des images. Les pommettes se dessinent, les yeux se plissent, les sourcils s'épaississent. Et greffé sur cette silhouette d'araignée, je reconnais les traits d'Esteban, empreint de cette sérénité que je lisais un peu plus tôt sur ce visage vide. Et d'une lumière aussi, d'un éclat bienveillant. Elle-même, maman la reine, elle-même vraiment.
Ok, alors... Avant la réunion, on va vous parler des déesses et particulièrement donc des parcs et des grandes déesses, donc la trinité des grandes déesses qui ont généralement le pouvoir de création. Donc, bon, pour vous, comment se sont-elles fondues dans le paysage imaginaire? On va commencer par, je sais pas, Patricia ou Virginie.
Comment les déesses se sont fondues dans le paysage imaginaire?
Ouais, comment elles sont, deux figures, on va dire, peut-être plus religieuses, devenues un peu des figures imaginaires.
Pour les fées, peut-être, pour parler des fées qui naissent entre autres des déesses du destin, des moires et des parcs. C'est un des ingrédients, hein, les moires et les parcs, dans ce qui va devenir le personnage de la fée. Et effectivement, on part de la mythologie et à petit à petit un passage par la littérature orale, je fais rapide là, mais pour ensuite arriver à un patrimoine, une incarnation dans le patrimoine écrit à travers le personnage de la fée au Moyen-Âge, pour donner un petit peu les grandes phases de l'évolution. Donc c'est à partir du Moyen-Âge que, mélangé à d'autres archétypes, on retrouve un petit peu les moires et les parcs, dans les grands personnages de fées. Voilà, pour donner évidemment cette évolution qui passe par l'oral pour revenir à l'écrit, et longue, complexe et fluctuante.
Oui, alors, Moi, je pourrais peut-être rebondir dessus. Vous parliez du Moyen-Âge, justement. En pensant à l'exposition, aux illustrations, en regardant aussi donc, les illustrations qui sont exposées en haut, je pense que ce qui est important, donc moi je m'intéresse à la littérature victorienne, donc fin 19e, début 20e, ce qui est important justement, c'est le renouveau du Moyen-Âge, donc à travers des artistes, notamment les pré-raphaélites, où on a toutes ces figures de femmes, je pense à Lilith par exemple, donc John Collier ou les Burne Jones, qu'on a tous plus ou moins à l'esprit. J'ai amené un recueil, là, vous pouvez feuilleter et voir un petit peu. Donc, c'est une réédition et on voit les illustrations dont il est question. En fait, il y a une sorte de renouveau, en fait, du Moyen-Âge à travers notamment les pré-raphaélites qui s'inspirent aussi de littérature, par exemple de Keats. Et tout ça est prégnant, en fait. Hein. Bon, moi, je travaille sur la littérature populaire. Alors, effectivement, il n'y a pas de frontières entre la littérature, l'illustration, le mythe, hein, puisque les pré-raphaélites se sont inspirés aussi directement des mythes ou des thèmes religieux. Donc je pense qu'il y a une espèce de... On a l'impression que tout est là, il n'y a plus qu'à se servir pour créer ou recréer ou faire perdurer en fait un mythe ou un archétype. Alors avec des renouveaux... dont on va sans doute parler, par exemple le vampire ou des choses comme ça, mais je pense que il y a une sorte de filiation qui est...
Oui, de filiation, ouais. Il y a une construction, quand on parle des fées ou des sorcières, pour prendre l'exemple le plus parlant, on se rend compte que c'est des figures qui se nourrissent, c'est jamais fixe. La fée, à un moment de son évolution en littérature, mais pas seulement, va évidemment se nourrir de certaines caractéristiques du personnage de la sorcière et l'entité bienveillante d'un côté et l'entité malveillante de l'autre. On se rend compte que ces catégories, elles sont pas fiables, elles sont pas pérennes et va y avoir sans cesse des échanges.
Donc à la fois créatrice de vie, de mort, à la fois littéraire et religieuse et simplement archétypale. Donc, je vais dire juste un petit... Donc, en lien direct avec ses origines mythologiques, c'est dans le kit des fées, une autre caractéristique se dégage, celle du pouvoir de création d'une histoire ou d'une fiction. Donc, tu emploies les fileuses comme métaphore de l'auteur. Donc, ma question va plutôt s'adresser à vous. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous écrivez une histoire, ou une nouvelle, d'être des fileuses, hein, d'être un peu comme des parcs?
Là, j'y vais. Bon. Je sais pas trop si je peux répondre à ça, parce que dans cette image, moi, de la part qui est vraiment l'image effectivement de l'auteur qui décide, qui a cette espèce de... qui est tout puissant par rapport à ces personnages, qui décide de leur naissance, de leur mort, en fait, qui coupe le fil. Et moi, cette image vraiment du fil et de couper le fil, je le ressens dans le travail vraiment sur le style, où là, c'est quelque chose d'extrêmement... d'extrêmement travaillé, d'extrêmement réfléchi, où vraiment je veux couper, peut-être c'est l'image des ciseaux qui fait ça, je coupe énormément, je veux vraiment modeler ça, mais par contre ce qu'il y a derrière le fond, c'est quelque chose qui s'impose d'une manière où j'ai quasiment pas de prise dessus en fait. Et il y a quelques années j'aurais dit, ce sont mes personnages qui décident tout seuls, et bon maintenant avec le recul je vois que c'est pas ça, mais je projette des choses peut-être de manière plus inconsciente, où à un moment donné il y a un déclic qui s'impose, et des années après je vais comprendre ce que j'ai écrit, mais très souvent je comprends pas sur le moment. Donc l'image de la part, pour moi, ça a quelque chose de vraiment... cette espèce de divinité qui décide concrètement. Oui, je fais ça sur l'écriture, sur le style, mais sur le fond, pas du tout. Je projette des choses et plus tard seulement, je comprends ce que c'est.
Donc, en gros, tu donnes naissance et tu les laisses exister.
Je donne naissance, je laisse exister. Et des années après, je relis le texte en me disant, bon sang, mais c'est bien sûr, c'était ça que j'étais en train d'écrire. Mais sur le moment, j'étais trop dedans, je le voyais pas.
D'accord. Et toi?
Moi, je fonctionne assez peu, je pense, sur le principe du fil conducteur, mais plutôt de l'improvisation totale. Qui marche ou qui ne fonctionne pas. Donc finalement, c'est pas une méthode que j'utilise et je vois beaucoup moins bien ce sujet.
C'est-à-dire, tu as pas l'impression de... En gros, tu laisses tes personnages exister et tu vois ce que ça donne après.
Pas seulement les personnages, l'histoire aussi.
D'accord.
Les deux, ils sont quand même liés. Le scénario est prioritaire, sans doute, je pense, dans une façon d'écrire et les personnages arrivent dessus. Enfin, donc c'est l'un ou l'autre. Et dans tous les cas, c'est quand même très improvisé.
D'accord. Les deux en fait se créent
mutuellement.
D'accord. C'est bon. Alors, en fait, pour revenir aux figures de... aux figures fondatrices, on va dire, des féminines imaginaires, on va plutôt passer à celles qui disent non. Hein, on va parler de... notamment, on peut parler de Cassandre, on va faire référence aussi à l'interprétation qu'on donne à Marion Zimmer Bradley dans La trahison des dieux, puisque Cassandre refuse les avances d'Apollon, et c'est pour ça, en gros, qu'elle se retrouve certes douée du don de prophétie, mais en même temps condamnée à jamais être crue, c'est un petit peu une punition, mais aussi, par exemple, à Lilith, et finalement, finalement, on va trouver une symbolique aussi assez forte de toutes ces femmes, comme Lilith, comme Ayesha, qui peut être Asha, qui va être aussi considérée comme rebelle, et ce genre de choses. Et en fait, je voudrais savoir qu'est-ce qu'elles symbolisent, à votre avis, toutes ces femmes qui disent non, qui refusent, qui...
Alors, en ce qui concerne donc le personnage de femme fatale de l'auteur sur lequel j'ai travaillé, donc Rider Haggard, peut-être vous connaissez Les Mines du Roi Salomon, King Solomon's Mind, qui a inspiré Indiana Jones, etc. etc. Donc, en fait, c'est vrai que cet auteur est connu plus pour le côté chantre de l'impérialisme, etc., et moins pour avoir dépoussiéré et vraiment mis sur la scène en fait le personnage de elle qui doit être obéie, elle dont on ne doit pas prononcer le nom, mais en fait qui a été vraiment un personnage complètement vampire dans sa littérature, puisqu'il a carrément vampirisé son autre cycle d'aventure. Donc She a vampirisé en fait King Solomon's Mines. Il a été jusqu'à unir ces deux personnages clés dans un récit en fait, Allen and She. Et ça donne des choses assez intéressantes, parce que un misogyne, impérialiste, chasseur, un gros bras, hein, grosso modo, qui déteste les femmes et qui tombe complètement sous l'emprise d'une femme jusqu'à en mourir et jusqu'à se réincarner pour la retrouver, etc. Donc l'histoire d'un amour sans fin, bon, c'est peut-être moins connu en fait, mais important. Alors la question, c'était les femmes qui disent non. Alors moi, je ne le verrais pas forcément comme ça. Je dirais que pour cet auteur victorien, et comme pour beaucoup d'autres auteurs, on pense aussi peut-être à Bram Stoker, hein, avec Dracula. Je pense que la femme représentée, c'est plus une projection d'une sorte d'idéal à une époque où, en fait, il ne faut pas oublier que la période victorienne, c'est quand même une période de le carcan moral est très fort, c'est une période d'interdit et où les gens cherchent par, enfin les gens, et où les créateurs, disons les artistes, peut-être cherchent un petit peu par tous les moyens à s'extérioriser. Alors il y a l'exotisme, les contrées lointaines, etc. Mais en fait, la femme devient vraiment l'élément central sur lequel on va cristalliser tout l'érotisme. Alors érotisme, exotisme, il y a toujours en fait ce jeu en fait et la femme devient finalement un lieu à atteindre. Donc c'est la caverne, si vous voulez. Alors bon, il est intéressant de voir, par exemple, si on étudie les cartes dans les romans d'aventure, la carte est stylisée, hein, la carte dans Les Mines du Roi Salomon, c'est le corps d'une femme en fait, hein. On suit un itinéraire qui va nous mener à une cave, on passe entre grosso modo la poitrine pour atteindre la cave. Bon, je vous passe les explications, il n'y a pas besoin. C'est une façon de s'exprimer à une époque où on ne pouvait pas forcément non plus dire les choses, où on se sert aussi de la mythologie ou de la Bible pour donner une assise aussi à son texte. Donc, c'est pas tellement la femme qui dit non, pour moi, c'est plutôt l'auteur qui va pouvoir s'exprimer et qui va pouvoir exprimer son fantasme à travers cet idéal féminin.
Pour rebondir sur ce dernier point, ça me fait penser en particulier à la fin du 19e chez les Décadents.
Oui.
On a dans notre travail sur les feux, parce que ce livre, je précise que je l'ai coécrit avec Audrey Canceau, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a travaillé donc avec moi. Et dans notre travail, pour la fin du 19e siècle, en France, en particulier chez Jean Lorrain, qui est un poète décadent, On s'est rendu compte de quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il va revisiter évidemment l'univers médiéval et en particulier très fortement les grandes figures féeriques, et ces représentations de la fée sont... Quand on a commencé à travailler dessus, on ne savait pas exactement ce qu'on allait trouver. On avait une hypothèse, c'était que puisque on s'était rendu compte au fur et à mesure de notre parcours que, en fonction d'un temps, d'un univers esthétique, les fées allaient être revêtues de cet univers. Ça va tout à fait dans la lignée de ce que vous disiez. Pendant la période décadente, on allait forcément avoir des fées qui allaient correspondre à l'esthétique décadente. Donc l'esthétique décadente, c'est le rejet du naturel, c'est donc évidemment l'artificialisation, un certain goût pour l'exotisme,
la morbidité.
Voilà. Et donc il propose systématiquement une relecture des grandes figures féeriques médiévales sous cet angle. Donc on a des Mélusines et des Morganes où, à propos desquelles ne sont retenus que les aspects en lien avec la morbidité, parfois même assez exagérés. Et par exemple, pour le personnage de Viviane, qui est un personnage assez duel, Jean-Laura ne va retenir que l'enchanteresse qui a provoqué la mort de Merlin, la femme fatale, etc. Et pas du tout la dame du lac. Donc on a vraiment une élimination de certains éléments pour une mise en lumière de l'artificialité et de ce qui va... Ça devient ces poèmes de Jean Lorrain, ce sont des fées décadentes, quoi. C'est des nouvelles fées. Donc voilà, ça rejoint ce que vous disiez. Et sinon, je pensais aussi la figure féminine qui dit non. Je pensais même carrément à des sociétés, à des micro-sociétés qui sont là comme un contrepoint à un certain pouvoir ou à une société existante dans la réalité historique. Et évidemment, on a au Moyen-Âge le modèle morganien, donc tous les modèles de féerie inspirés de l'histoire de Morgane, c'est-à-dire une fée qui habite un autre monde et qui va faire venir le chevalier issu donc de la société féodale dans cette société autre, donc nommée l'autre monde, qui va finalement mener ce chevalier à la perte de ses repères dans la société qui lui est contemporaine, avec donc une remise, ce qui s'ensuit, c'est la remise en cause évidemment du système existant, et on retrouvera ça aussi au XVIIe siècle. Voilà, donc là c'est une société qui dit non à celle existante.
Alors, est-ce que vous avez l'impression d'utiliser, d'après ce qui a été dit, des archétypes ou des symboliques féminines dans vos écrits?
Moi, je pense que inconsciemment, sans doute, je fais une transposition entre le savoir et le pouvoir. Le pouvoir étant l'homme, en général, enfin, l'envie de pouvoir. Et la femme représentant plutôt le savoir, qui est une forme de sagesse ou de balancier, en fait, qui s'oppose à cette forme de témérité, qui est beaucoup plus sage. C'est une dualité plutôt vue sous cet angle-là. Et qui doit transparaître sans doute dans un certain nombre de personnages que j'ai dû utiliser. C'est l'un des archétypes que j'ai sans doute en tête, qui doit apparaître assez souvent.
Effectivement, oui. Même si on pense à la nouvelle de la diplomate France, justement, elle cède et absente, mais elle cède.
Là, il y a un équilibre quand même entre deux personnages, parce que le texte, je ne sais pas si on peut l'écrire en deux mots, c'est le choc de deux personnages qui sont chacun équivalents, finalement, c'est comme le choc de deux billes, qui s'interpénètrent au sens mental. Et les deux personnages vivent chacun leur vie, et c'est vrai qu'on suit l'un des deux. L'homme qui bascule dans la femme sur le plan mental et qui récupère une partie de son mode de pensée, mais pas tout à fait. Enfin, c'est relativement mixte quand même dans ce cas particulier.
Une partie de son mode de pensée, mais oui. Lui, il essaye avant de faire. Enfin, il essaye surtout de la faire fonctionner. Il essaie moins de la comprendre. En fait, il y a moins de.
Il y a l'aspect marionnette en fait. On découvre un nouveau corps, on essaie de l'utiliser, de voir comment il fonctionne. Oui. Donc là, la notion de différence de mental sur des façons de penser, par exemple, elle apparaît relativement peu.
Mais en même temps, parce que ça peut permettre d'imaginer comment elle aurait pu, vivre cette inversion.
Oui.
Le fait de ne suivre que ce personnage.
J'en ai suivi un seul, c'est vrai.
Voilà, c'est ça qui est assez rigolo.
Le texte, il n'est pas symétrique du tout.
Et l'absence de l'autre permet d'imaginer justement... Ouais. Et toi, alors ?
Moi, je m'aperçois, en fait, en réfléchissant un peu au sujet, que j'utilise beaucoup plus d'archétypes que je le pensais. Mais c'est assez rarement, comme je disais tout à l'heure, de manière réfléchie. C'est-à-dire que les archétypes sur lesquels j'ai écrit, qui sont vraiment identifiés comme tels, c'est notamment les fois où j'ai écrit sur des figures de la mythologie grecque. Soit parce que c'était pour répondre à un appel à texte sur le sujet, comme ça arrive assez souvent, soit parce qu'à un moment donné, ça s'est imposé... Moi, les mythes grecs sont des lectures d'enfance, donc des choses que j'ai intégrées comme ça, qui font vraiment partie de mon imaginaire. Et très souvent, je ne comprends pas pourquoi une figure s'impose à un moment donné. J'ai un exemple qui est... on a déjà parlé de ça, un exemple qui est assez... qui, moi, m'a frappé, c'est que j'ai écrit un roman qui s'appelle « Trois pépins du fruit des morts », où il est question notamment d'une adolescente qui refuse de grandir, c'est-à-dire qu'elle est... Elle voit arriver la puberté et tous ces changements qu'elle n'a pas demandé qui l'effraient. Elle est une espèce presque de fantasme qu'elle voudrait être morte pour ne plus grandir. Et j'avais ce personnage de petite fille qui ne veut pas grandir et je lui faisais rencontrer une femme un peu mystérieuse. Je ne savais pas qui était cette femme. Et j'ai eu vraiment un déclic, c'était un flash. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est cette femme, c'est Perséphone. Pourquoi ? J'en sais rien, mais cette femme, c'est Perséphone. Je vais construire le roman autour de ça. Et donc, j'ai eu pas mal de développement sur l'histoire de Perséphone mise en parallèle avec celle de cette adolescente, la petite fille qui disparaît, la mère qui est en deuil plus ou moins à ce moment-là. Et c'est en repensant à ça des années après que je me suis aperçue, mais le mythe de Perséphone, c'est un mythe sur le refus de grandir, mais c'est un mythe qui est extrêmement effrayant sur ça. C'est un mythe où en fait le passage à l'âge adulte, que ça passe d'abord par un enlèvement, ensuite par un viol, par un inceste, par une descente chez les morts. C'est extrêmement violent vu comme ça. Et quelque part, mon roman ne parlait que de ça, et j'avais pas fait le rapprochement avec le mythe de Perséphone. Donc très souvent, je vais utiliser des mythes qui s'imposent comme ça, et j'ai pas réfléchi à ça. Ou bien, je crois que c'est Virginie qui m'avait fait remarquer qu'un personnage d'une de mes nouvelles lui faisait penser à Mélusine, et je connais pas du tout le mythe de Mélusine. Je sais pas du tout qu'est-ce qui... En fait, je pense qu'il y a énormément d'archétypes qu'on intègre comme ça, qu'on réutilise, on les connaît, c'est des figures qui sont familières, mais on n'a pas forcément un nom plaqué dessus. Et je dirais que ça me fait penser à un troisième exemple où... je parlais des figures mythologiques, j'ai utilisé le mythe de Circé aussi dans une nouvelle, où là, pour le coup, c'était pour un appel à texte sur réécriture des mythes. Donc, sur quel mythe j'ai envie d'écrire ? Tiens, Circé, c'est un mythe que je trouve fascinant, que je trouve amusant, ça va être marrant d'écrire dessus. Donc, Circé qui avait transformé les compagnons d'Ulysse en porcs. Et à un moment donné, en écrivant dessus, je me dis, d'accord, elle les transforme en porcs, mais moi, j'ai jamais été très portée sur la figure de la sorcière qui fait les choses comme ça, qui est maléfique pour emmerder le monde. Pourquoi elle a pu faire ça ? Ça s'est imposé, elle les a transformés en porcs parce que elle voulait révéler leur nature de porc, donc elle a révélé quelque chose qui existait déjà. Ce qui a amené au développement, peut-être que les hommes d'Ulysse l'avaient violée et qu'elle les a punis comme ça en révélant leur nature de porc. Et donc j'écris la nouvelle, je la publie comme ça, et on me fait remarquer un peu plus tard qu'on me fait écouter une chanson de la chanteuse Juliette que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle « Le sort de Circé » et qui raconte très exactement la même histoire. Et c'est quelque chose qui m'a fascinée, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans l'air du temps, il y a une interprétation particulière d'un mythe qui s'impose. J'avais jamais écouté cette chanson. Juliette devait pas avoir lu ma nouvelle, qui de toute façon n'existait pas au moment où elle écrit la chanson. Qu'est-ce qui fait que... Je suis assez fascinée par ça, cette manière dont on réutilise les mythes. Et il y a quelque chose dans l'air du temps, et je sais pas... qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est cette interprétation-là qui s'impose.
C'est des espèces de convergences qu'on retrouve effectivement dans, que ce soit dans le milieu universitaire, en littérature, je pense aussi dans la peinture aussi, c'est des espèces de trucs bizarres, des espèces de courants flottants. Sur quoi, c'est, est-ce que vous voulez rajouter un truc là-dessus, Jean-Michel ?
Oui, moi je pensais à un texte aussi que j'ai oublié de te montrer, qui aurait pu illustrer aussi cette particularité, c'était la tapisserie de Pénélope. Effectivement, représenté comme ça, je pense maintenant, qui est l'histoire à la fois de l'amante et la mère qui sont confondues dans l'attente du fils. Et c'est une personne qui, comme la femme d'Ulysse, l'attendait. Et la dimension fantastique de ce texte fait que pendant qu'elle l'attend, elle ne vieillit plus. Ce qui fait qu'ils finissent par se rattraper en âge et arriver à avoir le même âge.
Ah ouais.
Et c'était symbolisé par une phrase qui a déclenché l'écriture du texte. C'était une phrase que dit la mère un jour à son fils, qui est « Quand tu n'es pas là, je ne vis plus ». Et à partir de ça, j'avais développé toute cette histoire qui faisait qu'une mère, dès que son fils était absent, en fait, elle arrêtait de vivre, au sens mise en sommeil, hein. Un peu comme des mythes qu'on a trouvé chez au Moyen-Âge aussi, sur la Belle au Bois dormant, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont mis en attente de quelque chose ou de quelqu'un, et qui retrouvaient sa vie uniquement quand son fils revenait, ou qu'elle savait qu'il allait revenir. Et la conséquence logique, bien entendu, c'est que le fils, ayant 20 ans de moins, à un moment ou à un autre, il finissait par se rattraper et se retrouver au même âge. Et le piège, c'est que la mère devient l'amante, peu à peu, parce qu'elle finit par aimer son fils d'une façon différente, parce qu'ils se retrouvent au même âge, et ils n'ont plus la même vision l'un sur l'autre.
Pénélope et qui finit par Jocaste.
C'est vrai qu'on retrouve il y a plusieurs choses. Par exemple, chez un auteur comme Haggett, qui n'est pas un auteur pour qui le merveilleux est très important, donc qui bascule quand même assez vite dans le dernier tiers en fait, de son écriture, donc on va dire au début 19e jusqu'à dans les années 30. Je pensais aussi par rapport à La Belle au Bois dormant, donc dans son dernier roman de Chi, donc Chi en fait, The Return, le retour, le héros la réveille par un baiser. Donc il la réveille et en fait il la révèle aussi, puisqu'il la retrouve, c'est une créature hideuse, monstrueuse. Donc on ne tombe pas amoureux d'une créature. Infâme, mais si en fait. Hein, donc on a ça aussi derrière. Alors que bon, c'est pas le plus important, c'est pas le plus typique chez un auteur tel que lui, mais le merveilleux est quand même de temps en temps s'exprime. On va dire.
Pour rebondir sur le merveilleux, je propose de faire un petit bond de quand même plusieurs siècles et de parler plus précisément des faits au XVIIe siècle, si je ne pense pas du tout, j'ai bien mot avec des faits. Au XVIIe siècle, en fait, la fée devient en fait une porte sur une liberté assez critique, à la fois pour les précieuses et les femmes lettrées. Alors que après, avec le siècle des Lumières, les fées vont peu à peu appartenir à la littérature de bonne femme ou à une littérature un peu plus, presque pas grotesque, mais quand même assez comique. C'est-à-dire qu'en fait, si je peux dire que précieuses et fées, ça t'évoque quoi?
Ça m'évoque les précieuses et les fées, parce que dans le sens où au XVIIe siècle, les femmes vont prendre, pas seulement, mais entre autres, les femmes vont prendre la plume pour écrire des contes de fées. Et en fait, on appelle ça, entre autres, une des appellations de ces précieuses, c'est le cercle des mondaines. Et elles vont donc s'emparer de contes de fées qui viennent d'Italie, qui sont arrivés à la moitié du siècle à peu près. En France, et petit à petit, encore une fois, elles vont transposer ces histoires de fées dans leur propre univers. Donc esthétiquement, les fées dans les contes et l'univers des fées dans les contes devient un miroir de l'univers de la cour, et à l'inverse, ces mondaines s'inspirent de l'univers féerique qu'elles créent. Donc c'est vraiment un jeu d'écho permanent. Et évidemment, cet univers féerique étant à l'image de la cour et de ses fastes, au siècle des Lumières, ça va être assez mal vu. Et cette vogue, cette mode, vraiment, il y avait une mode très forte de l'univers féerique, va être mise au rebut et être la cible de critiques très très fortes, puisqu'évidemment, on ne pouvait, enfin, un tel univers de fastes ne pouvait plus être à la mode dans un temps qui petit à petit va annoncer la révolution, comme on le sait. Et les hommes au XVIIIe siècle qui vont reprendre la plume pour écrire des histoires en lien avec les fées vont, dans un premier temps, en fait, ridiculiser les fées, tout simplement, et puis leur enlever tout leur pouvoir de fascination. À tel point que dans les histoires de fées, on sait que la marraine. C'est un personnage très très important qui a été très puissant et qui est vraiment la digne héritière de nos parcs et moires, les déesses du destin. Il y a même un texte au XVIIIe siècle où un personnage qui s'appelle la fée mauvaise et qui joue le rôle en gros de la marraine va se retrouver littéralement attaquée, agressée par le bébé dans son berceau qui veut pas de ses dons. Donc, alors qu'elle voulait lui faire un des dons très positifs, elle n'était pas malveillante hein, cette fois-ci, et le bébé l'attaque, la griffe au visage, alors du coup évidemment elle retourne le don et puis le condamne à une existence beaucoup moins drôle que celle qui était prévue au départ. Mais ce petit clin d'œil est très symbolique, c'est-à-dire que tout se passe comme ça, ou la plupart du temps, ça se passe comme ça dans les textes, c'est-à-dire que les fées perdent sont remises en question, leur pouvoir est remis en question, leur pouvoir de fascination complètement. Leur palais, qui était des palais enchanteurs, vont devenir des palais vides et austères. Et souvent, ils étaient représentés comme... on les associait à la saison du printemps, forcément. Et là, il y a plusieurs textes où, au contraire, la saison qui leur est associée, c'est l'automne. Voilà. Donc c'est la saison de la mort, etc. Et voilà, en gros, il y a ce mouvement qui se renforce au XVIIIe.
Moi, ce qui m'avait aussi frappé, c'est que finalement, on a l'impression qu'il y a une continuité de cette littérature qui est donc qui à la base est quand même un énorme moyen d'expression, et c'est un truc assez veut dire que c'est aussi un moyen d'expression de liberté, de beauté et tout ça, qui va donc devenir littérature de bonne femme. Après, on va assimiler très lentement les contes de fées à de la littérature de bonne femme ou de la littérature qui fait peur, c'est quand même fait du Bethlehem pour redresser un petit peu tout ça, mais aussi que cette espèce de condamnation d'imaginaire s'est élargie au monde imaginaire. Et en particulier quand même à la fantasy actuellement, qui reste encore un truc pour enfants ou un truc de la sous-littérature, et on peut réétendre un petit peu aussi au fantastique et peut-être moins à la science-fiction, mais science-fiction, je suis moins spécialiste. Je me disais, est-ce qu'on considère encore la science-fiction comme de la sous-littérature ou moins?
Oui.
Je suis tout à fait d'accord.
Donc, les littératures de l'imaginaire sont des sous-littératures depuis le XVIIIe siècle. Non, je sais pas, c'est moi qui ai mis un truc comme ça.
C'est une question difficile, j'ai réfléchi à cette question, mais disons que là, au XVIIIe, on comprend, a posteriori, on comprend plus facilement que ce qui était. Bon, il y a plusieurs choses, la prise de la. Que l'écriture au féminin ait pris peut-être autant de place, ça a peut-être posé un petit... Enfin, c'est peut-être un peu facile de dire ça, j'en sais rien, mais... ça peut participer... Enfin, en tout cas, il y a une reconquête de cette matière par les hommes, ça c'est clair. C'est dans les faits. Maintenant, pourquoi? Bon, c'est un peu complexe. Ce qui est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était vraiment, vraiment, vraiment un univers très fastueux, et il est clair qu'il fallait... Il fallait briser cette mode parce que voilà, il fallait absolument revenir à une certaine austérité politiquement, et ça allait de pair évidemment. Après, merveilleux, il fait un retour au début du XXe siècle, quand même.
Est-ce que justement il n'y a pas eu un retour, enfin un mouvement inverse avec des auteurs tels que Marion Zimmer Bradley et les féministes, notamment aux États-Unis? Est-ce qu'on peut pas, moi je sais pas, est-ce qu'on peut pas se poser la question, qui ont remis au bout du jour donc ce thème en fait?
Oui, je connais moins cette partie-là.
Il y a quand même toute une littérature, c'est énorme quoi. Donc, parce qu'on cite Marion Zimmer Bradley, j'ai pas tous les auteurs en tête, mais
Je connais mal cette partie-là, j'avoue. Mais il faudrait se pencher.
Parce qu'on a quand même pas mal d'auteurs féministes américaines qui ont vraiment écrit dans cette veine.
Et de ce que j'ai compris, c'est en fait l'entrée de l'imaginaire, et particulièrement sur le coup de la fantaisie en France, en tout cas en milieu universitaire, est beaucoup plus récente. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, ça fait depuis une décennie. Alors je vous propose de continuer là-dessus, sur le. De faire plutôt à partir du 19e siècle. Donc Patricia, dans une communication en 2004, un peu sérieux, tu as dit quelque chose sur la femme fatale. Tu as un petit peu un saut de plus encore, ou un gros saut. Elle se caractérise par son ambivalence. Pareil à Los Venelis de Swinburne, Salomé de Scarwag ou Lilith de MacDonald. Elle est à la fois puissante et fragile, belle et terrifiante. Autre caractéristique de la femme fatale, le rapport dominant-dominé. Et dans Alan Quatermain, on entend bien ce que tu disais, le chasseur misogyne ne sait comment se sortir des griffes d'une femme trop entreprenante. Et il déclare, il ne peut rien arriver de pire à un homme que de tomber entre les mains d'une femme sans scrupules, et même d'une femme tout court, sous-entendu. Donc au XIXe siècle, la porte va se refermer. La rebelle n'est plus donc synonyme de bel esprit, mais finalement d'une sorte de sexualité débridée. Donc une sorte de limite devenue la fée, peut-être la fée du XVIIIe siècle, un peu extravagante, ou est-ce qu'on peut plutôt y voir peut-être les débuts de la femme fatale, de la vente
Oui, alors complètement, mais avant de répondre à ça, je voudrais juste préciser, je n'ai pas dit tout à l'heure, je pense qu'il est important aussi de voir ce personnage de femme fatale comme des personnages qui sont des anti-reine Victoria. Il faut dire que bon, la reine Victoria a eu quand même une très très grande influence à 1830-1901, donc c'est énorme sur la littérature de l'époque. Reine d'Angleterre, impératrice des Indes, lui en fait on a l'impression, il est possible, si on a une lecture socio-critique en fait de ces textes, il est possible de voir le personnage de femme fatale comme un personnage d'anti-Victoria. Alors, bon, Victoria, on connaît, elle n'est pas franchement sexy, elle incarne les valeurs de la famille, la femme au foyer, la bonne épouse, enfin bon, le droit, enfin toutes ces choses-là, alors qu'effectivement ces héroïnes, pas du tout, alors qu'elles sont présentées comme des reines tyranniques, elles sont blanches de peau, elles dirigent des tribus, la tribu de Zamaaguer notamment, donc elles les asservissent complètement, elles se font obéir. Alors il y a une citation intéressante, en fait, elles règnent par la terreur. My empire is the one of the imagination. En fait, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas d'armes, elle n'a pas d'armée. Donc en fait, comme Circé peut-être, elle terrorise en fait les populations et elle boucle en fait comme ça son empire. Alors le souhait de Asha, de Shi en fait, c'est de dominer le monde, ni plus ni moins. Donc en fait, elle voudrait s'allier les pouvoirs d'Alain Quatermain pour conquérir. Alors bon, l'histoire se passe en Afrique quand même, mais elle voudrait reconquérir l'Angleterre quand même. Hein. Dans le retour de Shi, on y va et on reconquiert l'Angleterre. Et le couple formé des deux héros va devenir les maîtres du monde. Hein. Donc bon, je pense que cette dimension-là est importante. Et puis évidemment, en pleine période décadente, on le disait tout à l'heure, la première fois que le héros voit Aïcha, en fait, il ne sait pas trop s'il s'agit d'une morte, d'une momie. Donc elle est présentée sous des voiles, elle ne marche pas, elle glisse, elle a une lumière blanche autour d'elle, sa voix, c'est plus une musique, il y a un parfum, enfin, c'est une écriture quand même très poétique, donc on voit bien qu'on est aussi dans le fantastique, mais on joue sans arrêt. Donc le personnage de Lilith, il est omniprésent aussi, hein, donc c'est complètement contemporain, hein. Le premier roman de Shi, donc c'est 1888. Lilith, bon, je regardais, c'est 97, mais c'est vrai qu'on a Théophile Gautier, La morte amoureuse, 1833, je crois, avant, qui a laissé quand même une empreinte importante aussi. Enfin, bon, tu citais Oscar Wilde, le personnage de Salomé. Alors, je relisais un petit peu là par rapport à ce dont on avait vu tout à l'heure. Bon, c'est intéressant de voir quand même que Oscar Wilde a écrit Salomé en France et en français. Il n'a pas pu le faire en Angleterre, donc en 93, je crois. En 91, il a écrit après en anglais en 94. Et Salomé n'a été joué, donc a été joué à Paris, notamment le rôle interprété par Sarah Bernhardt. Et en fait, il a été joué en Angleterre 40 ans plus tard. Donc il y a une censure. Bon, le Lord Chamberlain avait interdit donc qu'on joue la pièce. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une censure aussi importante. Hein. Donc le personnage du vampire, oui, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quelle littérature non plus. Là, on est dans une littérature pour jeunes. Pour jeunes adolescents, normalement c'est une littérature qu'on donne à lire aux jeunes hommes qui vont partir. Hein. Donc en fait, il faudrait voir l'auteur en question comme un pendant de Jules Verne. Ça me parle plus peut-être aux Français. Armé de cette littérature de jeunesse, un petit peu d'avant-garde, on espère que les jeunes hommes vont avoir envie de voyager, etc. etc.
Sur le corps de la femme, en plus.
Voilà.
Et aussi en parallèle, ce que tu dis, au fait que Dracula, le Stoker, veut aussi conquérir l'Angleterre et le monde, et finalement, pour arriver à se libérer du carcan victorien, il faut être en gros soit un monstre, soit une femme. C'est quand même assez particulier, une femme assez spéciale aussi. Donc c'est assez bizarre comme. Enfin, c'est étonnant, enfin, je sais pas, c'est.
Ce qui était intéressant dans ce que vous disiez, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que vous dites en tant qu'auteur, ça m'échappe. Et là, ça lui échappe complètement. Donc là, il s'agit d'un auteur victorien qui est lord, qui est reconnu, qui fréquente les hommes politiques et qui est quand même un auteur sérieux. Et il présente une littérature complètement débridée pour être une littérature pour enfants. Je vais peut-être beaucoup parler.
Alors, on parlait des corps et des femmes fatales à un moment donné, quand même. Je voudrais recentrer. La question sur laquelle on n'était pas tout à fait d'accord. Donc, en fait, c'était que Manière Noire, qui ouvre le recueil éponyme, et puis Nomad's Hand, parle énormément du rapport au corps féminin.
Oui.
Et toi, tu me dis que j'ai oublié la tête.
J'ai l'impression.
Donc, et pourtant, j'ai l'impression que, en fait, quand tu parles dans tes nouvelles.
Dans ces nouvelles-là en particulier ?
Dans ces nouvelles-là, en même temps, tu parles du corps, mais effectivement, on voit qu'il y a quelque chose, que le rapport au corps n'est possible que c'est à la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas tant de décalage que ça. Donc.
Ces nouvelles-là sont peut-être pas représentatives par rapport à des choses plus longues ou plus développées, où j'ai pu avoir des personnages qui ont une vie plus intense. Dans Manière Noire, la femme est plus ou moins piégée dans un système, dans un environnement qu'elle n'a pas bien compris. Elle est un instrument plutôt que le héros de l'histoire. Donc là, on n'est pas tout à fait dans une vision féminine tout à fait objective.
Non, mais en même temps, avec un rapport au corps qui est en même temps très frontière et très pudique, quoi, qui est,
Ah oui, bien sûr, oui. Par rapport à l'histoire elle-même.
Par rapport à l'histoire, où il y a énormément de. Finalement, le corps sert aussi de mise à distance.
Oui.
Donc.
Je pense qu'il faut quand même dire ce que c'est que Manière Noire, parce que, même sans résumer entièrement la nouvelle, Manière Noire, c'est une technique, c'est un terme qui date du XVIIe siècle, à peu près, je crois, et qui correspond à une technique de gravure qui est en gros l'inversion de la technique habituelle des peintres. Qui est d'enlever du noir, enfin de gratter du noir pour avoir du blanc en quelque sorte. C'est la gravure inversée. Et la gravure a un intérêt fondamental dans cette nouvelle parce que c'est l'un des seuls arts de type peinture sur lequel la dimension tactile est fondamentale. C'est-à-dire l'état de surface, de la surface que l'on travaille a une importance énorme. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est gravure, par exemple, ce sont les tirages numérotés. Qui n'existe pas en reproduction papier en général, sauf dans des livres qui n'ont aucune valeur pour ceux qui s'intéressent à cet art, et où l'état de surface, ou la visibilité de la surface est très importante, donc la dimension tactile est fondamentale. Et dans le texte aussi, pour d'autres raisons.
Dans le texte aussi, mais en fait, ce qui me frappe, c'est que du coup, tu as une dimension inversée, c'est-à-dire que tu parles d'inversion, c'est que la manière dont il procède, finalement, j'ai l'impression d'utiliser le corps pour faire apparaître l'âme.
Oui, c'est ça.
On part
du néant en quelque sorte. Dans la technique elle-même, c'est un tableau sombre où tout est noir. Et la gravure permet d'enlever pour retrouver le trait que l'on a envie de faire. À l'opposé de toute autre technique où, en général, quand on veut un trait, on le dessine. Et dans l'autre cas, il apparaît en négatif, ce qui correspond à des façons de faire complètement différentes. Quand on veut faire réapparaître un corps, un sujet, un objet, un paysage, il faut l'enlever et non pas le mettre. C'est quand même beaucoup plus difficile à faire dans la technique elle-même que l'inversion photographique.
Okay. Donc, Mélanie, on va continuer là-dessus aussi. Sur les corps et les frontières, Moi, j'ai l'impression aussi que quand tu parles des autres décors, tu parles énormément de, aussi de cette notion de frontière, que le corps peut te servir de. Le corps et notamment la peau te sert de frontière entre différentes âmes, différents. On va dire la chair et les éléments. Le personnage qui, narrateur généralement est. Une altérité ou ce genre de choses, ou alors je me plante complètement sur.
En fait, c'est, j'ai l'impression que c'est plusieurs questions, plusieurs thèmes abordés en un seul, et je ne sais pas trop sous quel angle tous les approcher, mais sur cette notion de corps et de frontières, je crois que tu. Enfin, ça me fait penser à une nouvelle, je pense que tu pensais peut-être à celle-là, où la narratrice est aussi loup-garou, en fait, est obligée plus ou moins de cacher sa nature différente sous une peau humaine normale, et rencontre un homme. Par lequel elle est très attirée, qui pour c'est la première fois de sa vie qu'elle rencontre un autre loup-garou, en fait. Et c'est un texte sur cette rencontre où il y a une communion à tout point de vue qui commence par une communion charnelle. En fait, ils commencent par retirer leurs habits, ensuite ils retirent leur peau d'humain pour se rencontrer comme loup pour la première fois, en fait, pour se montrer leur différence et la première fois qu'ils peuvent montrer cette différence à quelqu'un sans avoir peur du regard de l'autre. Et il y a un peu peut-être toute cette recherche de. Ça peut être beaucoup de choses, mais un des thèmes qu'on peut aborder à travers le fantastique avec le corps, c'est ça justement, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Peut-être le corps peut servir à cacher une différence qu'on ne sait pas exactement comment montrer aux autres. J'ai beaucoup de personnages qui sont en quête en fait, d'identité ou des choses comme ça, ou qui cherchent à cacher une différence. C'est peut-être beaucoup, beaucoup par ça. Sur le corps, je pense aussi à d'autres textes. À chaque fois que j'ai dû écrire un texte en fait, qui était plus ou moins un texte érotique ou un texte où on me demandait une composante sensuelle très forte, c'est vrai qu'à chaque fois je suis partie sur un texte où il y a une rencontre avec, soit comme je viens de le dire, quelqu'un qui est autre et qui va chercher un autre différent pour lui montrer sa différence, soit quelqu'un qui est en quête de quelque chose qu'il va aller chercher dans le surnaturel ou chercher dans un rapport en fait, avec quelqu'un qui n'est pas un autre humain. Je pense que ça doit répondre à des manques, à des angoisses, à des choses comme ça, et je trouve que c'est des personnages. Pour moi, les personnages qui sont en quête, qui sont en recherche de quelque chose, qui sont en manque, sont les personnages idéaux pour écrire du fantastique, parce qu'ils deviennent en fait une espèce de porte sur le surnaturel. Ça me frappait en lisant des romans fantastiques récemment à quel point tous les personnages sont comme ça. Ils sont tout le temps angoissés, ils ont tellement de failles que le fantastique peut s'infiltrer par là, en fait. Et des fois, pas très à l'aise justement avec leur corps, ce qui est une autre faille par laquelle le surnaturel peut entrer. Il y a énormément de questionnements qui tournent autour de ça, je pense. Mais je ne sais pas si je peux fournir une réponse vraiment à tout ça, tellement pour moi, ce sont plein de thèmes différents qui partent, dans tous les sens.
Oui, effectivement, énormément, quand même, le corps frontière, le corps passage, le corps qui devient une porte.
Oui, les fées, le corps des fées, ça a été vraiment quelque chose qui, au cours de l'écriture du premier guide, s'est imposé comme. Comme un point particulièrement intéressant, à tel point qu'il est devenu le sujet du prochain livre. Et en fait, on l'imagine souvent éthérée, et la question du corps de la fée, ça pose problème quand même. Et en fait, au fur et à mesure des textes, nous, on s'est vraiment consacré, on a vraiment fait tourner nos recherches autour du patrimoine littéraire, parce qu'il fallait réduire le champ, faire des choix, voilà. Et le corps de la fée dans les textes littéraires, il est ultra présent. La fée, c'est un corps donc qui est profondément sexué. C'est un corps vivant, c'est un corps incarné, et c'est pas un corps éthéré et transparent ou rarement. Et en tout cas, les textes où il est vraiment incarné et où finalement la fée est une femme, voilà, sont les plus nombreux, que ce soit au XVIIIe siècle, tout à l'heure on a abordé le XVIIIe siècle sous un certain angle, mais au XVIIIe siècle, il y a aussi évidemment dans la vogue des contes libertins, des contes où il y a des fées libertines, et voilà, qui sont clairement des textes, on passe de l'érotique au pornographique, clairement, donc là le corps de la fée est ultra présent. Mais l'humanisation de la fée et sa sexualisation, elle est posée dès le Moyen-Âge, même dans... Alors, on ne va pas jusqu'à des scènes débats sexuels dans ce texte, mais en tout cas, il y a déjà une immunisation de la fée forte dans un texte pour ce théâtre naissant du Moyen-Âge, qui est Le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, où déjà les fées sont des femmes, des bourgeoises de quartier, Il y a une satire qui est faite sur ces faits typés bourgeoisie du nord de la France, etc. C'est assez drôle. Et déjà, en fait, voilà, cette identité de femme fée, le fait femme, se pose. Et voilà, le corps de la fée et l'érotisme des fées, c'est la plupart des textes en sont pleins, quoi. 16e siècle aussi, en Italie aussi, dans le Roland Furieux, les fées sont Alcine, par exemple, la fée Alcine, elle est inspirée de Circé, puisqu'on a vraiment une redite du mythe de Circé dont on parlait tout à l'heure. Elle est connue pour ses ébats avec les chevaliers qui arrivent sur son île. Enfin, il y a des grandes idylles comme ça, des grands couples de fées chevaliers où il est clairement fait mention des ébats. Voilà. Donc c'est une question très complexe. Enfin, au début de notre.
J'ai l'impression qu'on est passé finalement des figures féminines imaginaires au corps fantastique et finalement au corps porte. Mm. C'est assez. Voilà, c'est ce qui ouvre pas mal de perspectives. Mm-hmm. Est-ce que l'un de vous voudrait conclure avant qu'on passe à une petite lecture de Jean-Michel ?
Juste une petite chose à rajouter par rapport à ce que vous disiez qui me paraît intéressant, c'est que là, le corps apparemment il est omniprésent. En fait, dans La Femme Fatale décadente, on a un jeu entre il est là, il est plus là. Le vampire est présent, il se montre, il se cache. En fait, on a toujours cette ambivalence, ce qui serait peut-être la différence entre les récits fantastiques et ces récits merveilleux. Donc la porte, évidemment, l'ouverture, ça c'est quelque chose d'important. Voilà.
Jean-Michel, quelque chose
Oui, et pour rebondir là-dessus aussi, je pensais que finalement, dans Manière Noire, on a une représentation non figurative du corps de la femme qui ouvre sur le mental de la part de la personne qui le connaît le mieux, en fait. C'est une des façons de faire le pont entre les deux. C'est d'ailleurs le cœur du sujet du texte, en quelque sorte, sans trop le dévoiler.
C'est ça que je trouve assez... Moi, c'est génial. C'est ce retournement et ce passage.
C'est le passage initial, celui-là.
Moi, j'aime bien. Enfin, moi, je le vois surtout la révélation à la fin.
Oui. Il y a aussi le trouble du personnage qui arrive dans une... qui arrive de face à un tableau et qui croit reconnaître quelque chose sans en être très sûr, alors que le tableau est fondamentalement non figuratif pour toutes les autres personnes, en fait, sauf lui. Il ne se déshabilla pas, se bornant à ôter ses chaussures. Gardant sa chemise ouverte ou sa poitrine décharnée, il se décida enfin, comme s'il lui en coûtait, s'allongea sur elle lorsqu'elle fut nue et... par touches successives, toujours prudent ou réservé, comme on entre dans l'eau froide pour le bain, se mit bientôt à la toucher, puis à la caresser de l'extrémité d'un doigt. Puis deux, puis trois. D'abord chastement, commençant par les mains comme à la ville, effleurant ses doigts, ses paumes qu'il lui faisait ouvrir, ses poignets, l'intérieur de ses bras à la peau si fine, procédant comme on goûte un plat inconnu, comme on explore un territoire vierge. Vierge, s'il savait. Puis, l'air de rien, par touches successives, le vieux s'enhardit, murmurant dans le même temps des mots sans suite dans un langage inaccessible, et ses caresses se firent bientôt plus osées, alors que, glissant, ne l'effleurant qu'à peine, toujours, à minima, aurait-on dit, il abordait par les chemins de sa peau des terres plus centrales. Il la touchait, la sondait en surface comme jamais avant lui aucun homme ne l'avait fait, dans un silence religieux et avec une passion démesurée, presque affolante de sensualité, bien moins sexuelle cependant que, disons, passionnelle. Ses ongles, qu'il avait limés soigneusement en arc de cercle, coururent sur sa peau toute la nuit, telles des fourmis industrieuses et hyperactives. Des socs retournaient la terre pour la rendre fertile, mais sans jamais la griffer ni la blesser. Elle crut un moment qu'il la caressait et se bornait à cela, à sa façon insolite, minutieuse et intégrale. Et de fait, c'était le cas. Du moins, le ressentait-il ainsi, sur sa peau à elle, dont il semblait compter, un à un, les grains et les variations de courbure. Et quand bien même c'était pour elle un travail rémunéré avant tout, ce fut aussi un travail agréable, car ces gestes-là étaient ceux d'un homme attentionné, doux et fort et avide à la fois. Des gestes d'amoureux, mais amoureux de qui ou de quoi.
Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions pour poser
Moi, concernant les images de sorcières... Je fais des conférences sur les femmes scientifiques et enfin sur l'histoire des femmes scientifiques. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que
beaucoup de femmes scientifiques ont été traitées de sorcières simplement parce qu'elles savaient des choses. Donc on retrouve un peu aussi le mythe de Lilith qui savait des choses, de femme qui veut savoir. Donc j'ai l'impression qu'assez souvent, à chaque fois qu'une femme a voulu savoir historiquement, on l'a placée dans la catégorie des êtres bizarres. Je ne sais pas ce que vous...
Mais ça, c'est une démarche volontaire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de savoir, c'est le savoir inné, en fait, qui est une autre façon de faire. Là, on est dans ce que vous citez, c'est le cas de la femme d'une catégorie très particulière, dite scientifique, qui est toujours en recherche d'eux, c'est-à-dire qu'il y a un objectif. Et moi, je pense que dans beaucoup de cas, je ne dois pas être le seul à traiter la femme sous cet angle-là, c'est qu'elle a un savoir inné. D'abord, on se rend compte qu'en tant que mère ou que future mère, elle a une connaissance innée de ce qu'il faut faire avec l'enfant, etc. Et qu'elle a déjà plus de connaissances ou un certain champ de connaissances qui est différent de celui de l'homme. L'homme a une volonté de pouvoir plus qu'une volonté de savoir, même s'il y a aussi des hommes scientifiques, forcément. Et la démarche n'est pas tout à fait la même. On sent que dans la femme, il y a déjà une espèce de capacité à savoir un certain nombre de choses dans l'un ou l'autre ou plusieurs de ses rôles. Et les scientifiques, c'est quand même très différent. C'est une recherche qui n'est pas innée, qui correspond à un effort, un goût de l'effort, une volonté d'aller plus loin par rapport à ses propres connaissances.
Enfin, moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Et je pense que ce que vous écrivez, c'est une diabolisation de la femme, parce que... Enfin, vous parlez de savoir, c'est pas la même forme de savoir que celui dont vous parlez. Et le savoir dont vous parlez, c'est pas un vrai savoir. C'est quelque chose qui reflète vraiment la vision très polarisée des sexes, c'est-à-dire la femme comme une créature de l'intuition, etc. Et justement, le pôle masculin comme un pôle rationnel, cérébral, etc. Et c'est justement cette tentative d'appropriation d'une connaissance, d'un mode de savoir de type masculin qui induit cette vision de la femme comme sorcière parce qu'elle est perçue comme menaçante et comme... marchant sur une plate-bande cherche à s'approprier les prérogatives masculines. Donc, je ne suis pas sûre... Enfin, ce savoir-là, féminin, c'est pas un savoir. C'est quelque chose qui va au-delà du savoir, tellement il est ancré, tellement il est intuitif, et tellement en plus, il est le fruit de l'imaginaire et justement cette polarisation, cette sexuation de l'homme et de la femme dans la vision, je veux dire.
Je suis pas sûre que j'ai grand chose, enfin, j'ai pas forcément de connaissances tellement là-dessus, mais j'aurais tendance à rejoindre sur la figure de la sorcière, je l'aperçois effectivement comme quelqu'un qui a un rapport avec le monde, qui a cette connaissance intuitive, mais ça me fait peut-être plus penser cette histoire de scientifique recherche de la connaissance à des choses qu'on trouve dans les mythologies ou même en remontant Adam et Ève, en fait, la recherche de la connaissance, mais c'est vrai quand. Spontanément, j'ai cette image de la sorcière, non pas comme étant quelqu'un qui va chercher à obtenir un pouvoir, mais qui a un rapport particulier avec la nature, avec le monde. Et cet aspect-là, effectivement, fait très peur. Après, j'ai pas énormément réfléchi au thème par rapport à ça, mais ça me fait peut-être plus penser à des mythes, justement. Que...
Ça semble quand même relativement inné, le savoir de la sorcière, plutôt qu'une recherche, un apprentissage.
Peut-être que ça me fait penser à un livre que j'avais traduit, il y avait un personnage de sorcière des campagnes, et ce côté rapport à la nature, tout ça. Je suis peut-être très marquée par ça, mais j'ai... Moi, je dirais intuitivement, c'est cette image-là qui me vient plutôt. Mais après, j'ai jamais étudié le sujet en profondeur, ou c'est plus
une image qui vient comme ça. Je crois historiquement, la sorcière a un vrai savoir, et c'est pour ça qu'on a inventé les sorcières. Au XVIe, XVIIe siècle, les braves inquisiteurs du marteau des sorcières inventent la sorcière pour supprimer complètement un savoir, notamment en pharmacie, médecine, etc., qui est un savoir tout ce qu'il y a de plus, savoir sachant, comme on dit, ça n'a rien de l'intuition, etc. C'est pas du tout comme les mouvements wiccans, wiccan actuels, où la sorcière est réputée voir la lune lui arriver dessus et trembler, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un savoir tout ce qu'il y a de plus constitué, qui est éliminé, on élimine les paysans, les femmes, et notamment les hommes qui possèdent la pharmacie, puisque les hommes ont... Dans le cadre d'une patriarchie unie, bien pensée depuis environ 6000 ans, on manifeste cette volonté. Quoi. Mmh.
Et si je peux me permettre de compléter, ça correspond à la création des universités de médecine tenues en grande partie par l'Église.
Voilà. Donc je crois que là, il n'y a pas d'intuition.
Ouais. C'est peut-être plus une assimilation avec l'image de la fée dont on parlait tout à l'heure, mais moi je me rends compte qu'en littérature, il y a beaucoup cet aspect-là aussi de la sorcière qui n'est pas historiquement. Et je pense que c'est peut-être justement ce qu'on disait sur la fée tout à l'heure, plutôt. Mais ça me frappe parce que c'est une image que j'ai vraiment très fort en littérature et qui revient souvent.
Nous d'autres questions, interventions on va ouvrir
par là, oui. Au fond.
Oui, c'était peut-être une question pour Charlotte Bousquet. Par rapport au roman Arachnae, où vous choisissez un matriarcat comme mode de politique, oui. Si j'ai bien compris, pourquoi ce choix, par exemple, est-ce qu'il me semble important dans le roman
Parce que, en fait, ça s'est un peu présenté comme ça, tout simplement. Et en fait, je me rends compte, à mesure des romans, que le matriarcat, on va dire ces figures féminines, disparaissent complètement derrière la dictature. Donc, enfin, une dictature religieuse. Donc, au départ, c'était parce que vraiment, ça s'est présenté, le culte de la triple déesse qui est qu'on trouve à peu près partout. Les moires, les parcs, parce que c'est trois figures qui vraiment me fascinent, et d'un point de vue mythologique et d'un point de vue poétique. Et puis après, moi, c'est vraiment le côté. C'est vrai, je vois à peu près ce que tu veux dire au niveau du côté intuitif et sagesse intuitive. Je me rends compte que les femmes d'Arachnae, et notamment les femmes de pouvoir, sont. Dire qu'il n'y a aucune différence avec les hommes. Donc peut-être que c'est vraiment plus une réflexion de manière générale sur la volonté de puissance qui est peut-être tout simplement humaine. Après, je suis plus vraie que moi, tu ne peux pas me confier des enfants, je les fais tomber. Donc,
du traitement des enfants. Dans
je suis désolée. Donc voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question. Est-ce qu'il y a d'autres...
Est-ce que vous connaissez le musée de la sorcellerie dans le Berry?
Moi, pas du tout.
Non plus.
Non, parce que de quoi il s'agit, en fait?
C'est un musée intéressant, puisqu'il y avait une pratique ancienne de sorcellerie dans le Berry. Et donc, ça retrace tout ce qu'on a pu associer à la sorcellerie. Donc, ouais. C'est un complément de ce que vous disiez.
Local ou général?
C'est général. Mais quand même Berry, quand même, puisqu'il y a une grosse culture sur les rebouteux, sur tout un tas de pratiques qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui marchent. Enfin, de temps en temps, ça ne marche pas. Hein. Faut pas croire qu'ils ont à savoir qu'ils marchent tout le temps. Hein.
D'autres
Une page de publicité pour les prochaines publications. Parce que le 9 avril, à l'Université Paris 13, nous organisons une journée dans laquelle il y aura des conférences avec Robert Michenblé sur la sorcellerie. Ça s'appelle Sorcière point d'exclamation. Donc c'est une table ronde. Et donc j'envoie le programme et une invitation à manger un repas médiéval. Alors tout ça a été médiévalisé, bon c'est pas très clair du point de vue historique, mais pas ça. Donc mon nom c'est anne-larue@free.fr. Donc si vous voulez le programme et une invitation, je vous en envoie. Fin de la page de publicité.
Bon, après la page de publicité.
Après la page de publicité.
Tu répètes.
Anne, comme un âne avec deux N, la rue comme une rue, mais avec la devant, tout attaché, A-N-E-L-A-R-U-E, @free.fr. Et comme ça, voilà, c'est sur. Ça s'appelle Le Moyen-Âge dans tous ses états. Il y a de la danse renaissante et il y a des sorcières. Donc ça ne tient pas historiquement, mais bon.
On fait des figures
pour
fantastiques
aux sorcières.
Voilà. Super. Donc bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci d'être venu. Hein. C'est, voilà. C'est,